Bonsoir, il est 16h ici à Washington, D.C., 20h au Burkina Faso. Bienvenue à ce bulletin qui vous est présenté par Nani Tetalani. Au Nigeria, 6 personnes ont été tuées dans des violences ethniques dans l'état d'Adamawa, au nord-est du pays. Selon la police, les habitants de la région qui font aussi état d'un bilan plus lourd. 6 cadavres ont été retrouvés après les violences qui ont éclaté vendredi, a expliqué le porte-parole de la police de cet État. Il s'agissait de violences ethniques qui ont été provoquées par un désaccord entre la communauté Haoussa et la tribu Tchabo à la suite d'un accident de tricycle, a-t-il précisé. De nombreuses maisons ont été brûlées, obligeant des centaines d'habitants à trouver refuge dans une école. Des policiers et des militaires ont été déployés pour maintenir l'ordre public et arrêter les fauteurs de troubles. Par ailleurs, le président nigérian Muhammadu Buhari a recueilli ce samedi plusieurs sachets de la tisane à base d'artémisia que les autorités malgaches vantent comme un remède contre le nouveau coronavirus. L'arrestation du financier présumé du génocide rwandais en France après 25 ans de traque, classé parmi les fugitifs les plus recherchés au monde, Félicien Kabouga a été arrêté ce matin près de Paris et écroué après 25 ans de cavale. Son arrestation ouvre la voie à un procès devant la justice internationale. Âgé de 84 ans, M. Kabouga, qui résidait dans la région parisienne sous une fausse identité, est accusé d'avoir créé les milices interahamwe, principaux bras armés du génocide rwandais de 94, qui a fait 800 000 morts selon l'ONU. Monsieur Kabouga est mis en accusation pour génocide, incitation directe et publique à commettre le génocide et crime contre l'humanité. Il présidait la tristement célèbre radio-télévision Livre des Mille Collines. Il est également accusé d'avoir ordonné aux employés de sa société d'importer un nombre impressionnant de machettes qu'il avait distribuées aux interahamwes. Hors de l'Afrique, l'Italie annonce la réouverture de ses frontières aux touristes. Afin de tenter de sauver la saison, dans un pays où le tourisme représente environ 13% du PIB, le gouvernement italien a annoncé la levée de la quarantaine obligatoire pour les visiteurs étrangers et la réouverture des frontières à tous les touristes de l'Union européenne. Ces mesures pourraient toutefois évoluer en fonction d'un éventuel risque épidémiologique. Première destination touristique d'Europe, la France a pour sa part rouvert ce samedi plusieurs sites emblématiques tels que le Mont Saint-Michel, la cathédrale de Chartres ou encore le sanctuaire de Lourdes. Mais leur accès est réservé aux visiteurs locaux. La Grèce a de son côté rouvert ses plages privées, mais à condition là aussi de respecter des règles strictes, dont l'interdiction de poser son parasol à moins de 4 mètres de son voisin. Les plages publiques avaient rouvert le 4 mai. En Angleterre, le premier week-end depuis l'allègement des mesures de confinement, plusieurs visiteurs éprouvés par des semaines d'enfermement ont afflué dans les parcs et certaines zones touristiques, rendant parfois difficile le respect des consignes de distanciation sociale. Près de 15 millions de voitures sont attendues ce week-end sur les routes d'Angleterre, selon un sondage. Sous forte pression pour en faire autant, l'Allemagne n'envisage pas de telles mesures avant le 15 juin. Elle a cependant rouvert aujourd'hui sa frontière avec le Luxembourg et a légèrement assoupli les conditions de passage avec l'Autriche et la Suisse. Dans tout le pays, des milliers de personnes ont manifesté contre les restrictions restantes face à la pandémie dans un mouvement qui prend régulièrement de l'ampleur. Certains manifestants estiment que les restrictions de mouvement qui subissent le pays servent à remplir un dessein qui n'a rien à voir avec la santé. Beaucoup dénoncent un projet de dictature qui serait à l'œuvre. En Suisse, la police a dispersé aujourd'hui des manifestants venus près du siège du gouvernement à Berne pour protester contre les mesures anti-coronavirus dans le pays. En Suisse, où l'épidémie de COVID-19 a fait plus de 1600 morts, tout rassemblement, même spontané de plus de 5 personnes, est interdit en raison de la pandémie. Les combats entre troupes pro-gouvernementales et forces séparatistes se sont poursuivis aujourd'hui pour la 6e journée consécutive dans la province d'Abyan, dans le sud du Yémen, faisant 14 morts dans les deux camps, selon diverses sources militaires. Les forces séparatistes du Conseil de transition du Sud résistent à une offensive des troupes pro-gouvernementales constituées de partis.
Bienvenue à bord.
Les passagers de Aeroshow sont priés de monter à bord. Aeroshow et tout son équipage vous souhaitent un bon voyage. Attachez vos ceintures de sécurité.
Les amis, ici c'est votre gars Roger Moutou en direct de Washington. Nous allons découler aujourd'hui avec les Rolling Stones. Aujourd'hui c'est samedi, R&B and Rock. Aujourd'hui c'est beaucoup plus rock et on décolle avec ce morceau.
Thank you.
Bonne musique aujourd'hui, les amis. Vous êtes en train d'écouter RM Show, une émission de VOA Afrique. On est ensemble, 001-202-619-3140, The Rolling Stone. Et bien sûr, The Rolling Stone, connu parce que c'est pas un groupe comme les autres, hein. Ça, il faut quand même le dire. C'est un groupe qui a cartonné beaucoup pendant plusieurs années et que les amis d'Abidjan, de Kinshasa, de Libreville ont beaucoup adoré les chansons de Rolling Stone. Et d'ailleurs là, je suis en train de lire quelques messages des amis qui sont en train de nous capter en direct de Kinshasa, Cape Town. Et là, je vais parler d'abord de Alphonse Mbouaki qui nous capte en direct de Cape Town, Kinshasa, qui parle aussi de Rolling Stone. Vous savez, le Rolling Stone, c'était un groupe de rock britannique formé à Londres en 1962 par le guitariste et leader original Brian Jones, le pianiste Ian Stewart, les chanteurs Mick Jagger, qu'on connaît tous, hein, une grande star, et le guitariste Keith Richards, le bassiste Bill Wyman et le batteur Charlie Watts, qui les rejoignent aussi ensuite et complètent la formation originale. Jagger et Richards constituent rapidement un duo, hein, on doit le dire, d'auteurs-compositeurs, et prennent peu à peu la direction du groupe en lieu et place d'un Brian Jones de plus en plus erratique. Ian Stewart, jugé peu apte à jouer les idoles des jeunes, selon les préférences de l'époque, hein, est envoyé du groupe et renvoyé du groupe. Hein. Déjà, il faisait partie du groupe, mais il a été renvoyé après en 1963, mais continuera à travailler avec les Stones comme road manager, voilà un manager qui les accompagne dans des tournées, et clavieriste aussi, jusqu'à son décès en 1985. Le nom du groupe, The Rolling Stone, vient d'une chanson de Muddy Waters, Rolling Stone, choisie par Brian. Le blues a toujours été la source d'inspiration principale des Stones, qui ont été l'un des principaux acteurs du retour de cette musique sur le devant de la scène à travers le British Blues. Love on soul divine. Warner Music à partir de 1966 et de l'album Aftermath, les chansons des Jagger et Richard Ambili par les expérimentations instrumentales de Brian Jones développe une diversité stylistique, on doit dire, qui restera présente jusqu'à nos jours. Hein. Jones meurt noyé dans sa piscine en juillet 1969, peu de temps après avoir été renvoyé du groupe. Il est remplacé par Mick Taylor qui participe à l'enregistrement de 5 albums studio avant de quitter les Stones en 1974. L'ancien guitariste de Faces, Ronnie Wood, prend alors sa place et la conserve depuis lors. Billy Wayman quitte à son tour le groupe en 1993. Le bassiste Daryl Jones rejoint alors le groupe sans en devenir un membre officiel. Les Rolling Stones, les amis, ont publié 22 albums studio au Royaume-Uni, 24 aux États-Unis, 8 albums live, 9 aux États-Unis et 32 compilations. En 2012, le groupe estime avoir vendu, écoutez, tenez-vous prêts, le groupe estime avoir vendu plus de 400 millions d'albums dans le monde. Aïe, 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 c'est pas petit. On écoute aujourd'hui le Rolling Stones.
Bye.
bonne musique aujourd'hui. Les amis, vous savez, à ce groupe de Rolling Stones sont entrés, enfin les Rolling Stones, comme ils appelaient, hein, tout ça, sont entrés au Rock and Roll Hall of Fame en 1989 et Mick Jagger a été anobli par la reine d'Angleterre en 2002. Leur image de mauvais garçon rebelle véhiculé dans les années 1960 est une référence majeure pour les générations de musiciens rock qui les ont suivis après plus de 50 ans de carrière. Les Stones, tous septagénaires, hein, comme on doit dire, continuent à se produire sur scène et avec succès dans le monde entier et ne manifestent aucune intention de mettre un terme à l'existence du groupe. On est en train de déguster, bien sûr, ce morceau de Rolling Stones. Ce sont les stars, vraiment, vraiment les stars, on doit le dire, hein, beaucoup de respect. Je rappelle que ce groupe comprenait Mick Jagger, Keith Richards, Brian Jones, Ian Stewart, Charlie Watts et Bill Wyman. bonne musique que vous êtes en train d'écouter aujourd'hui dans RM Show, une émission de VOA Africa. Les Stones symbolisent la vitalité de l'état pur et c'est pourquoi ils sont toujours présents aujourd'hui. Ça, c'est une citation de Martin Scorsese qui a parlé ainsi, qui pense ainsi, bien sûr, de Rolling Stone. Les Stones sont véritablement le plus grand groupe de rock de la planète et ils le seront toujours. Ils seront aussi les derniers.
Bienvenue à